9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. Les violences mortelles entre adolescents font la une de l'actualité. Elles ont toujours existé, mais on a l'impression ces deux derniers mois qu'elles se sont multipliées. Alors qu'en est-il exactement? Le sociologue Marwan Mohamed, l'un des rares spécialistes en France du phénomène, est en direct avec nous ce matin. Les crimes contre l'humanité aussi se sont multipliés. Il n'y a jamais eu autant de plaintes ni autant de condamnations. Isabelle Fouchard va nous expliquer pourquoi. Et l'on terminera l'émission avec Jean Birnbaum qui publie un éloge de la nuance. C'est vrai qu'on en a bien besoin par les temps qui courent. Bonjour Marwan Mohamed.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sociologie, vous travaillez sur les bandes de jeunes depuis longtemps, votre thèse portait déjà sur le sujet et vous avez publié depuis la formation des bandes de jeunes entre la famille, l'école et la rue aux presses universitaires de France et les bandes de jeunes des blousons noirs à nos jours avec Laurent Mucchielli à la découverte. Les bandes de jeunes, je l'ai dit, existent au moins depuis le Moyen-Âge, mais plusieurs rixes mortelles ont fait la une de l'actualité ces deux derniers mois. On en conclut que le phénomène est en augmentation, que les meurtriers sont de plus en plus jeunes et de plus en plus violent. Est-ce que vous êtes d'accord?
Durant la belle époque, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, la presse de masse qui se développait pointait déjà la question des bandes de jeunes, qu'on appelait à l'époque les Apaches, du nom d'une tribu indienne d'Amérique du Nord. Et on disait déjà à l'époque, avec les mêmes mots, qu'ils étaient de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. Et je veux dire, fin des années 50, début des années 60, on a une nouvelle vague de bandes de jeunes qu'on appelle les blousons noirs, en référence au rock'n'roll, à James Dean, à la fureur de vivre, et déjà encore à l'Amérique du Nord, en termes de prisme. Et à l'époque aussi, on disait que les bandes de jeunes qui se bagarraient, notamment autour de Paris, mais pas seulement, étaient déjà de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. Et puis les années 70, et puis les années 80, et puis les années 90, et puis les années 2000. Et aujourd'hui encore, on entend que ces jeunes-là sont de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. Sauf que quand on regarde dans le détail les premières études sociologiques qui ont été menées dans les années 60 sur ce sujet-là, et qu'on regarde la pyramide des âges des jeunes qui participent aux bandes, on voit que c'est des jeunes qui sont généralement âgés entre 13, 14 ans, et à l'époque, il y a 50 ans, ils sortaient des bandes vers 20 ans, pour plein de raisons liées à la structure des opportunités de l'époque. Aujourd'hui, c'est à peu près l'âge qu'ont ces adolescents qui se battent, qui s'affrontent dans l'espace public, et donc on n'a pas forcément de rajeunissement de la délinquance juvénile ou des bandes de jeunes. Par contre, ce qu'on observe, c'est plutôt un vieillissement des bandes de jeunes, parce qu'on sort aujourd'hui, plus tard, de ces logiques de bande, parce qu'il y a moins d'opportunités qu'il y a 50 ans.
Les opportunités dont vous parlez, c'est qu'il y a 50 ans, on partait faire son service militaire et on trouvait du travail plus facilement. C'était la raison pour laquelle l'adolescence se prolongeait moins longtemps.
L'adolescence se prolongeait moins longtemps, et puis les enfants des classes populaires n'accédaient, ou très peu accédaient, une minorité accédait au secondaire à l'école. Et la société, je veux dire, la manière de faire jeunesse s'est complètement transformée. D'une part, contrairement à il y a 50 ans, il n'y a aucun des jeunes qui se retrouve en atelier ou à l'usine. C'était le cas de la majeure partie d'entre eux, la période des blousons noirs. Ils bossaient tous, en fait, quasiment. Et ils pouvaient bosser s'ils le voulaient, même s'ils étaient exploités durement, mais il y avait cette possibilité de trouver une place à l'usine ou à l'atelier. Deuxièmement, la question scolaire, elle n'était pas centrale, alors qu'elle l'est aujourd'hui dans la construction des trajectoires. Les liens entre scolarité et sociabilité, c'est-à-dire que comment le parcours scolaire, l'expérience scolaire détermine les modes de sociabilité qui vont être développés, est très fort aujourd'hui. Pardon. Troisièmement, vous aviez le service militaire, effectivement, il était de 28 mois, et puis je rappelle qu'à la fin des années 50 et les débuts des années 60, les adolescents les plus récalcitrants, ils étaient envoyés en Algérie pour satisfaire aux besoins de la puissance coloniale qui était la France à l'époque. Et donc, on a des contextes qui ont changé, mais une pyramide des âges qui ne s'est pas étirée vers le bas, mais plutôt vers le haut.
On a entendu plusieurs politiques de l'opposition fustiger le laxisme du gouvernement. Du temps où les lois sur la protection de l'enfance n'existaient pas et où les délinquants juvéniles étaient envoyés dans de véritables bagnes pour adolescents, est-ce qu'il y avait moins de bandes de jeunes et est-ce qu'il y avait moins de faits divers meurtriers qui les concernaient?
Non, la société, notamment les violences juvéniles, pouvaient être considérablement plus intenses que ça peut l'être aujourd'hui. Et puis la justice pénale des mineurs n'a cessé de se renforcer. La réponse pénale n'a cessé de se développer. Et aujourd'hui, la réponse pénale, c'est-à-dire le fait d'apporter une réponse judiciaire à un acte, est beaucoup plus importante chez les mineurs que chez les majeurs. Mais là aussi, on retombe sur une espèce de refrain politique habituel qui consiste à dénoncer le laxisme et à appeler à beaucoup plus de fermeté. Sauf que quand on regarde sur le terrain ce qui fonctionne, on pourra peut-être en parler, ce qui fonctionne, c'est par rapport à ces questions de rivalité délinquance juvénile, c'est la présence adulte, c'est le travail social, c'est le travail de prévention, ou c'est la présence d'animateurs dans l'espace public, ou de responsables associatifs, ou de figures associatives, qui sont au contact de la réalité, au contact des jeunes, et qui ont la capacité d'être informés suffisamment tôt, et puis de réagir de la meilleure des manières qui soit. Ça reste des adolescents, ça reste des êtres en formation, et ce discours appelant à plus de fermeté est aujourd'hui un discours qui se répète un peu comme un disque rayé, mais qui est en décalage avec la réalité des faits et la réalité de ce qui fonctionne. Il y a des territoires en France dans lesquels des actions de prévention ou d'accompagnement ou de réaction vis-à-vis de ces affrontements ont été mis en place, et ils ont fonctionné. Ils ont fonctionné parce qu'ils ont utilisé un savoir-faire de l'intervention sociale, et qu'ils ont pu s'appuyer sur des acteurs locaux très implantés et plutôt légitimes aux yeux des adolescents en question.
Marwan Mohamed, l'impression qu'on a, à la lumière des faits divers récents, hein, ceux qui ont fait la une de l'actualité, c'est que des filles se retrouvent parmi les victimes et parmi les meurtriers. Ça, ce serait nouveau.
Oui, c'est très rare. Alors d'abord, qu'il y ait des adolescents qui soient meurtriers, tel que ça puisse passer, par exemple, à Argenteuil, c'est très rare. Et puis Argenteuil, on n'est pas dans un phénomène de rixe ou de logique de bande. On est dans un conflit interpersonnel qui a dérivé vers un drame, un peu comme à Bondy. Et je pense qu'il faut faire attention quand on qualifie, on utilise la notion de rixe, qui est tellement vague et floue. Une rixe, c'est une querelle et une bagarre dans l'espace public, c'est ça. On peut intégrer dans cette notion-là des phénomènes qui sont extrêmement différents les uns avec les autres. Donc là, on n'a pas de logique de bande. On a un conflit interpersonnel sur fond de harcèlement, de jalousie, qui dérive vers un crime qui est absolument horrible et qui implique à la fois une fille comme victime et puis une fille comme auteur présumé. Les bandes de filles, de toute manière, c'est un phénomène qui revient, mais beaucoup moins rarement que celles des bandes de garçons.
Plus rarement, vous voulez dire.
Beaucoup plus rarement, et qui est souvent très très ponctuel. C'est-à-dire qu'elles apparaissent, elles disparaissent aussi rapidement. Le phénomène des bandes est d'abord un phénomène masculin qui implique des jeunes de classe populaire, plutôt en difficulté à l'école et en difficulté à l'insertion.
Vous voulez dire que c'est l'échec scolaire, en général, qui fait qu'on va rejoindre une bande?
Alors, quand on distingue les jeunes qui s'engagent dans les bandes, y compris dans les quartiers populaires, et ceux qui ne s'engagent pas, la question de l'expérience scolaire, elle est centrale, vraiment centrale.
On fait une pause, on revient tout de suite sur le sujet.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Nous sommes ce matin avec le sociologue Marwan Mohamed, à qui l'on doit Les bandes de jeunes, des blousons noirs à nos jours, aux éditions de La Découverte, co-dirigé avec Laurent Mucchielli. Parmi les choses qui ont pu changer dans les bandes de jeunes, il y a quand même les smartphones et les réseaux sociaux. Ça change tout, non ?
Ça modifie en profondeur le mode de vie des adolescents, ça modifie en profondeur la manière de fonctionner dans les bandes, et ça impacte effectivement la manière dont ces rivalités émergent et peuvent s'entretenir. Au moins de quatre manières. La première, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de conflits qui naissent sur les réseaux sociaux. Par des messages, des vidéos, des formes de harcèlement. Enfin bref, il y a des conflits qui peuvent naître sur les réseaux sociaux.
Des conflits de réputation aussi, parce que
oui,
la réputation, c'est central, non ? À la fois sur les réseaux sociaux, dans toutes les classes de la société, mais particulièrement dans les bandes.
C'est particulièrement central dans les bandes, parce que la réputation a une fonction de compensation sociale qui est beaucoup plus affirmée, beaucoup plus intense. Et ça se comprend par le fait que pour des adolescents qui sont en échec scolaire, démobilisés scolairement, ou qui sont en difficulté d'insertion et qui ne sont pas forcément passionnés par une activité sportive, culturelle, qui pourrait faire tampon, j'ai envie de dire, il faut trouver un moyen de s'affirmer, de devenir quelqu'un, d'accéder à une forme de position et de statut social. Et les bandes offrent ça. Par de la transgression, par de l'excitation collective, par des choses aussi qui ne sont pas que de la transgression, c'est aussi le fait d'offrir une place dans un groupe, offrir une forme de protection, une espèce de chaleur, une forme d'excitation collective. Donc, il n'y a pas que du négatif dans le fonctionnement des bandes, mais il y a aussi la part transgressive qui a des conséquences pour les jeunes en question et pour la société qui peuvent être négatives. Alors, sur les réseaux sociaux, effectivement, les enjeux de réputation, ils sont amplifiés. Parce que ce n'est pas seulement les 3 personnes ou les 10 personnes qui sont autour de l'événement, du conflit. C'est des centaines de personnes qui sont connectées. Et les choses se partagent beaucoup plus vite. Et cette question de la temporalité, elle est absolument centrale aujourd'hui. Tout se fait en temps réel via les réseaux sociaux. La naissance du conflit, eh bien, tout le monde la connaît, tout le monde est informé tout de suite. Et puis les mobilisations, elles peuvent se faire en temps réel, pas besoin d'aller chercher l'un après l'autre les copains. Ils sont informés, donc ils peuvent s'auto-mobiliser, s'auto-réunir sans être récupérés par une personne en particulier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça fait qu'il reste moins de temps pour les adultes pour réagir en amont et pour refroidir dès qu'il y a un conflit qui émerge. Et ça, c'est un effet quand même qui est considérable. Et puis enfin, la question de la mise en scène. À travers les photographies, la vidéo, le message, les audios, les bandes et ceux qui sont en conflit se mettent en scène. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument nouveau. Avant, ce travail de scénarisation était effectué par les journalistes. Quand ils prenaient en photo, quand des photographes passaient, les groupes et les bandes se mettaient en scène, mais ils n'avaient pas la maîtrise ni de la diffusion, ni forcément de la scénarisation. Aujourd'hui, ils sont totalement autonomes et indépendants pour se mettre en scène et diffuser les images qu'ils veulent d'eux-mêmes.
Sur ce délai qui s'est réduit entre la mobilisation et le règlement de compte en lui-même, on a tous des souvenirs, il y a eu beaucoup de films sur la délinquance juvénile, on a tous des souvenirs de la grande sœur qui intervient et qui calme, qui fait baisser la tension. Tout ça, on n'a plus le temps maintenant, c'est ça ce que vous nous dites ?
On a moins le temps. Je ne dis pas qu'on n'a plus le temps, je dis juste qu'on a moins le temps. Et ça implique pour les travailleurs sociaux, mais aussi pour les familles, d'être connectés. Voilà, et ça c'est quelque chose qui est nouveau, mais je sais qu'il y a beaucoup d'équipes de prévention spécialisées, beaucoup d'animateurs, beaucoup de structures d'animation ou d'intervention sociale qui pensent à la manière d'intervenir ou d'être présent dans l'espace numérique. Il y a des associations qui se sont spécialisées dans ce secteur-là parce que aujourd'hui, plusieurs heures par jour. Et par semaine, les jeunes vivent leur vie numérique
Marwan Mohamed, il y a la crise sanitaire depuis un an, il y a eu le confinement, aujourd'hui il y a le couvre-feu, ça aussi ça a de l'influence, non ? Sur ces faits divers particulièrement horribles qu'on a pu voir ces 2 derniers mois, est-ce que vous y voyez, vous, les conséquences de la période particulière que nous traversons ?
Alors bien sûr que la crise sanitaire, elle impacte tout le monde. Mais en matière de violence, le seul impact mesurable qu'on observe pour le moment, notamment dans les chiffres de la police ou de la justice, c'est l'augmentation des coups et blessures volontaires. Mais cette augmentation, elle est essentiellement tirée par l'augmentation des violences intrafamiliales. Donc ça a un effet direct du confinement, pour le coup, que le fait que les violences familiales et intrafamiliales ou les violences conjugales augmentent. Mais en termes de violences de voie publique, d'affrontements ou de rivalités, d'une part, on n'est pas en mesure de manière très précise, de comparer l'une année sur l'autre pour dire il y a plus ou moins de bandes, il y a plus ou moins de risques, contrairement à ce que présente.
Il n'y a pas de statistiques, en fait.
Il n'y a pas de statistiques solides, fiables sur le long terme. Ça n'existe pas. Notre appareil n'est pas organisé pour ça, notre appareil de statistiques, notre appareil de mesure. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, les remontées de terrain, moi, que je peux en avoir, et je suis connecté à beaucoup de réalités, beaucoup de quartiers populaires, beaucoup de villes populaires et beaucoup d'acteurs locaux, c'est qu'on est sur une forme de continuité. S'il y a un impact, il n'est pas évident sur les rivalités. S'il y a un impact de la crise sanitaire, il n'est pas forcément très évident sur les rivalités.
Le cinéma et les séries nous ont beaucoup documenté sur les gangs des ghettos américains. C'est souvent la référence qu'on peut avoir, y compris dans les temps lointains. West Side Story, c'était déjà une histoire de délinquance juvénile et on se battait au couteau. Quel rapport peut-il y avoir aujourd'hui entre le phénomène des bandes de jeunes en France et les gangs des ghettos américains ?
Alors, on a une espèce d'obsession nord-américaine, mais qui a plus d'un siècle. Les Apaches, c'était déjà une obsession américaine du phénomène des bandes. Les blousons noirs, pareil. Les Zoulous, dans les années 80-90, avec l'arrivée de la culture hip-hop et de la culture des ghettos américains, c'est la même chose. En fait, il faut bien avoir en tête que les réalités sont quand même extrêmement différentes. J'ai passé 2 ans aux États-Unis à étudier la criminalité organisée. J'ai fait des entretiens en détention, notamment avec des personnes qui ont passé leur vie dans les gangs avant de monter à des niveaux plus élevés. Et ce qui me frappait, c'est que ce qu'ils décrivent comme réalité des gangs est très différent de la réalité en France. D'une part, parce que les gangs sont beaucoup plus importants. On a des gangs qui sont sur tout le territoire national, voire des gangs qui sont internationaux, les Latin Kings, par exemple. On a des gangs avec des centaines, voire des milliers de membres, voire des dizaines de milliers de membres. C'est des quasi-organisations. Et puis surtout, le gang, c'est d'abord une communauté. Une communauté qui remplit des fonctions sociales qu'on ne peut pas réduire à la part criminelle qui existe. Mais on ne peut pas la réduire à cette part criminelle. Et puis, il faut savoir qu'un gang, c'est une large organisation qui implique ce qu'on appellerait, nous, ici en France, dans nos territoires, à la fois les bandes, mais tout ce qui relève des économies criminelles. En France, c'est séparé. Ceux qui font les marchés criminels sont gérés par des équipes et les petites bandes de jeunes d'adolescents vivent leur vie à part. Il peut y avoir de la circulation. Mais c'est quand même 2 mondes avec 2 ressorts différents. Aux États-Unis, les gangs englobent, en fait, tout ce qui relève de ces marginalités-là. Et puis le ministre de l'Intérieur a dit qu'on a eu 3 morts en 2020 sur les affrontements entre bandes. En 2020, juste à Chicago, il y a eu plus de 700 homicides. Juste pour Chicago, une grande majorité liée aux affrontements entre gangs. Il y avait plus de 300 mineurs qui sont décédés.
Merci Marwan Mohamed. Je renvoie à votre livre « Les bandes de jeunes, des blousons noirs à nos jours », consigné avec Laurent Mucchielli. C'est paru à la découverte. Il n'y a pas que les violences mortelles entre adolescents qui se sont multipliées. Il y a aussi les crimes contre l'humanité. On en parle juste après ça.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Les crimes contre l'humanité aussi se multiplient, du moins c'est l'impression qu'on en a en entendant qu'un Syrien a été condamné en Allemagne pour complicité de crimes contre l'humanité, que des plaintes ont été déposées pour crimes contre l'humanité en France et en Allemagne contre le régime de Bachar el-Assad, qu'une plainte a été déposée par Reporters sans frontières contre le prince héritier d'Arabie Saoudite pour crimes contre l'humanité, que la CPI, la Cour pénale internationale, vient de se déclarer compétente pour juger des crimes contre l'humanité qui auraient été commis pendant la guerre de Gaza en 2014, qu'elle vient de reconnaître coupable un Ougandais de 61 crimes contre l'humanité et crimes de guerre et qu'elle juge en ce moment un Malien pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Isabelle Fouchard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste, chargée de recherche à la Sorbonne. Vous faites partie des auteurs du Que sais-je consacré aux crimes contre l'humanité et de Droit des crimes internationaux qui est paru aux Presses universitaires de France. Autrefois, les procès pour crimes contre l'humanité étaient exceptionnels par leur ampleur et par la gravité des crimes qu'on y jugeait. On a l'impression qu'aujourd'hui, ça s'est multiplié, comme je le disais.
Alors, ça s'est multiplié, oui. La définition juridique du crime contre l'humanité a évolué, s'est élargie depuis Nuremberg, si on part de cette définition-là. Et en effet, elle est maintenant consacrée par l'article 7 du statut de Rome, instituant la Cour pénale internationale. Et de plus en plus d'États ont incriminé et établi leurs compétences pour en juger au niveau national.
Mais par exemple, l'exemple de cet ancien haut gradé de l'armée de résistance du Seigneur en Ouganda, qui est traduit devant la Cour pénale internationale, qui a été reconnu coupable le 4 février dernier, de pas moins de 61 crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis donc en Ouganda lors de 4 attaques de camps de réfugiés entre 2002 et 2005. Les nazis ont été jugés pour un crime contre l'humanité. Lui, c'est 61.
Alors, c'est 61 charges de crime contre l'humanité qui se déclinent en meurtre, en torture, en viol, en tout autant de crimes sordides qui, au sens de la définition du crime contre l'humanité, parce que commis dans le cadre d'une attaque systématique ou généralisée en connaissance de cette attaque, peuvent recevoir la qualification de crime contre l'humanité.
On a toutefois vraiment l'impression, et vous l'avez confirmé, que la définition du crime contre l'humanité s'est élargie. Autrefois, on faisait la différence entre les Juifs et les résistants qui étaient déportés à Auschwitz, par exemple. Les résistants partaient tout seuls, les Juifs partaient avec leur famille. C'est pour ça que dans le cas des résistants, c'était un crime de guerre, et dans celui des Juifs, c'était un crime contre l'humanité. Aujourd'hui, on a l'impression que tous les crimes de guerre sont assimilés à des crimes contre l'humanité.
Alors non. Il y a 3 crimes là donc, que vous évoquez. Il faut distinguer le crime de génocide, tel qu'il a été perpétré contre les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, le crime contre l'humanité et les crimes de guerre. Encore une fois, le crime contre l'humanité, à la différence des crimes de guerre, peut être commis en temps de paix. Ça, c'est une des vraies différences déjà de la définition de Nuremberg. À Nuremberg, l'idée d'introduire le crime contre l'humanité, c'était de pouvoir justement pallier les lacunes de la qualification des crimes de guerre qui ne permettaient pas de poursuivre les hauts dirigeants d'un État pour les crimes commis contre leur propre population sur leur territoire. Le crime de guerre ne permettait pas ça. Donc on a créé le crime contre l'humanité, on l'a formalisé. Aujourd'hui, donc c'était vraiment un crime pour la criminalité de haut niveau. Et donc, en termes de droit international, c'était extrêmement novateur, révolutionnaire de pouvoir poursuivre des hauts dirigeants pour des crimes commis sur leur territoire contre leur propre population.
Et souvent par des subalternes qui avaient obéi aux ordres.
Exactement.
Mais vous voyez bien, vous l'avez dit, c'était des crimes de haut niveau. C'était l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, tout acte inhumain commis contre des populations civiles ou bien des persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux. On y a ajouté aujourd'hui l'emprisonnement, la torture, le viol, la prostitution forcée, l'esclavage sexuel, la disparition forcée, toutes choses tout à fait horribles, on l'a bien vu, mais qui font qu'aujourd'hui, on peut être poursuivi pour crime contre l'humanité pour la répression violente d'une manifestation, par exemple, une répression sanglante. Hein, c'est ce qui arrive, par exemple, à cet agent de renseignement syrien qui a été condamné en Allemagne pour complicité de crime contre l'humanité, parce qu'il avait participé à l'arrestation de 30 manifestants à Damas et qu'il les avait transférés dans un centre de détention. Complicité de crimes contre l'humanité.
Alors, on ne peut pas dire que toute répression violente d'une manifestation peut constituer un crime contre l'humanité, encore une fois. Je suis juriste, je reviens à la définition juridique. C'est seulement si cette répression violente passe par des actes sous-jacents, donc meurtre ou arrestation arbitraire, ou etc., tout ce que vous avez énuméré, et il y en a d'autres, commis dans le cadre d'une attaque systématique ou généralisée commise contre une population civile. Donc il y a ce contexte qui vraiment fait la différence entre les violences policières dans la répression d'une manifestation et puis la répression d'une manifestation dans un contexte plus large d'attaques de population civile.
Je veux dire par là que des gilets jaunes ne pourraient pas porter plainte pour crime contre l'humanité,
pas
contre le préfet de police de Paris,
non.
Par exemple, parce que ça n'a été ni dans le cadre d'un plan
Absolument.
Systématique et répété. On comprend mieux, effectivement. On fait une pause, Isabelle Fouchard, on se retrouve juste après, j'ai encore d'autres questions à vous poser.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Isabelle Fouchard, une juriste donc, et je l'interroge sur la multiplication des crimes contre l'humanité. Autre exemple, Isabelle Fouchard, Reporters sans frontières, qui a déposé le 1er mars une plainte contre Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui venait d'être désigné par les États-Unis comme le commanditaire de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018 à Istanbul. Alors là, il est question d'assassinat, de torture, de séquestration. Mais alors, s'agit-il d'un crime contre l'humanité ? À ce titre-là, combien la France aurait-elle commis de crimes contre l'humanité pendant la guerre d'Algérie ou pendant la guerre d'Indochine ? Mais Reporters sans frontières plaident que la répression exercée contre les journalistes en Arabie Saoudite est un crime contre l'humanité parce qu'il s'agirait, pour RSF, d'un plan concerté, d'une pratique systématique. On est dans le cadre que vous venez de nous expliquer. Pour autant, s'il y a une répétition de crimes contre telle ou telle profession, est-ce qu'il peut s'agir d'un crime contre l'humanité ?
Dans la définition du crime contre l'humanité, la persécution d'un groupe est une des manières de commettre un crime contre l'humanité.
Après, quel que soit ce groupe, donc ça peut être une profession et pas seulement un groupe en fonction de ses origines ethniques ou religieuses.
Potentiellement, le fait qu'il y ait une plainte n'est pas du tout, ne garantit absolument pas qu'il va y avoir un procès pour crime contre l'humanité dans cette situation-là.
C'est le cas qu'il y a eu en Allemagne, hein, à plusieurs reprises, contre le régime de Bachar el-Assad. Des plaintes ont été déposées. Alors on tombe sur un Une autre nouveauté, c'est le principe de la compétence universelle qui permet de poursuivre les auteurs de crimes contre l'humanité, en tout cas des crimes les plus graves, quelle que soit leur nationalité et l'endroit où les crimes ont été commis. On a bien vu depuis le début qu'il y a des plaintes qui sont jugées par la Cour pénale internationale et puis qu'il y a des plaintes qui sont jugées en Allemagne ou peut-être demain en France. C'est sans limite, ça ? C'est-à-dire que dans n'importe quel pays, n'importe qui peut porter plainte pour crimes contre l'humanité ?
Alors, la compétence universelle n'est pas du tout une nouveauté. Elle existe en droit international depuis le XVIe siècle pour la piraterie maritime. Tout à fait. Oui. C'est pas du tout sans limite. Elle est au contraire extrêmement limitée et subsidiaire. Elle n'est possible que pour ces crimes internationaux les plus graves quand les États les plus directement concernés n'exercent pas leurs compétences. C'est vraiment une compétence de dernier ressort, disons. Typiquement dans le cas syrien, la Cour pénale internationale ne peut pas avoir compétence parce que la Syrie n'est pas partie au statut de Rome et parce que, quoi qu'il en soit, le Conseil de sécurité est bloqué par le veto potentiel russe. Donc la Cour pénale internationale n'est pas une option. Les juridictions nationales syriennes n'en sont pas une non plus. Ça ouvre la voie à cette compétence universelle qui, en effet, permet à tout État, pour un crime de droit international, de juger des crimes commis à l'étranger par des étrangers contre des étrangers. Il y a quand même une limite qui est la présence de l'auteur, à minima, la présence de l'auteur sur le territoire de l'État qui prétend exercer sa compétence. Cette compétence universelle, elle a finalement vocation à dire que pour ces crimes-là qui affectent l'humanité tout entière, un juge national peut, au nom de la communauté internationale, alors il faut se méfier hein, de ce qu'on appelle la communauté internationale, mais au nom de tous les États, peut juger l'auteur d'un crime grave.
Dernière question, Isabelle Fouchard. Tous ces crimes contre l'humanité dont j'ai dressé la liste juste pour ces derniers jours, hein, on pourrait l'étendre si on remontait plus loin. Au fond, pour vous, ce sont les mêmes qu'autrefois, les mêmes, c'est le même esprit. La définition du crime contre l'humanité n'a pas changé au cours des décennies.
Alors si, la définition du crime contre l'humanité s'est largement, s'est élargie. Si vous vous référez à Nuremberg, on a trois évolutions majeures. D'abord, le contexte. À Nuremberg, il fallait que ce soit commis pendant un conflit armé international, ce qui n'est plus le cas. Un crime contre l'humanité, maintenant, peut être commis en temps de paix. Le deuxième point, c'est qu'à Nuremberg, il s'agissait vraiment de saisir une criminalité d'État et qu'aujourd'hui, la Cour pénale internationale reconnaît qu'il y a de toute façon une entité collective derrière la planification, l'organisation du crime contre l'humanité, mais qu'aujourd'hui, ça peut être un État ou une entité privée. Et puis, la dernière point, c'est ce que vous évoquiez, c'est la liste des actes sous-jacents. En effet, elle est large et elle est ouverte en plus, parce que l'article 7 se termine par un alinéa. Tout autre acte inhumain de... Alors, je ne le connais pas par cœur. Tout autre acte inhumain de gravité analogue causant de grandes souffrances physiques ou psychiques. Donc, en plus, elle est ouverte à potentiellement d'autres types d'actes sous-jacents qui, dans ce contexte, pourraient constituer des crimes contre l'humanité.
Donc, a priori, on se dit qu'il peut y avoir de plus en plus de plaintes pour crimes contre l'humanité. Merci, Isabelle Fouchard. Je rappelle que vous faites partie des co-auteurs du Que sais-je sur les crimes contre l'humanité et de Droit des crimes internationaux qui est paru aux presses universitaires de France. On se retrouve juste après une pause avec Jean Birnbaum. Il fait un éloge de la nuance et c'est vrai qu'on en aurait bien besoin par les temps qui courent.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadéhi.
Bonjour Jean Birnbaum.
Bonjour.
Vous dirigez le monde des livres et vous venez de publier Le courage de la nuance au seuil. C'est devenu un signe de bravoure de nos jours d'être nuancé ?
Bah oui, c'est un peu ça tout l'enjeu, c'est de montrer qu'être nuancé aujourd'hui, c'est pas être mou, être tiède, être un lâche, que le doute, c'est pas la dérobade, que être dans une forme de conscience de ses propres failles, c'est pas de la lâcheté. Donc aujourd'hui, se tenir sur la corde raide, essayer d'être dans le vrai en même temps, l'authentique en même temps, c'est-à-dire prendre le réel en tant qu'il est contradictoire et se tenir sur la corde raide, bah oui, effectivement, c'est une forme de bravoure.
Vous dites de ce livre que c'est un manuel de survie partant de vitrification idéologique. On est loin, c'est vrai, du temps où on parlait de la fin des idéologies. Hein, on a l'impression qu'elles n'ont jamais été si prononcées.
Oui, et puis surtout, elles se répondent les unes aux autres. C'est-à-dire que je pense qu'on est nombreux, je pense que ça doit être votre cas aussi. Moi, autour de moi, j'ai plein de gens qui sont
fatigués, qui étouffent. Quoi. Je cite cette phrase de Camus, d'Albert Camus, qui dit « Nous étouffons parmi les gens qui croient avoir absolument raison ». Et c'est vrai qu'en ce moment, on a l'impression, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les débats publics, ou ce qui tient lieu de débats publics, ou dans nos conversations amicales parfois aussi, on a l'impression que l'idéologie, non seulement est souveraine, mais que surtout... qu'elle vient toujours répondre à l'idéologie, qu'on peut toujours répondre aux slogans par les slogans. Quoi. Et bon, je pense qu'on est très nombreux en même temps à avoir envie d'autre chose.
Mais alors souvent, on accuse les réseaux sociaux, mais ça ne se passe pas seulement, vous venez de le dire, sur les réseaux sociaux, c'est à la télévision, c'est dans la vie de tous les jours. On se méfie, comme vous dites, de l'argumentation. Les nuances sont jugées inutiles. On veut savoir tout de suite à quel bord vous appartenez, pour qui vous roulez.
Oui, je l'ai ressenti vraiment physiquement, moi. Très très concrètement, c'est pas du tout abstrait, c'est pas théorique. J'ai sorti deux livres à peu près sur le même sujet, sur la relation entre la gauche, la religion, le djihadisme, l'aveuglement qui est le nôtre souvent quand il s'agit de religion, d'islamisme ou autre. Et à 3 ans d'intervalle, dans les mêmes salles, les mêmes débats publics, les mêmes émissions parfois, j'ai senti les choses se tendre beaucoup. Peut-être que moi-même aussi, d'ailleurs, je m'étais tendu, un peu auto-radicalisé devant Internet, comme on dit maintenant. Et donc, je pense que oui, on a besoin d'autre chose, de respirer autrement.
Mais il n'y a pas plus radical que la nuance, dites-vous ?
Oui, parce que par exemple, je pense que dans toutes les périodes, je prends quelqu'un comme Raymond Aron, parce que c'est aussi ce livre, c'est une sorte de, j'ai voulu faire une sorte de câlin mélancolique à plein de gens comme nous, comme moi, qui souffrent un peu de ce qui se passe en
Albert
ce moment.
Oui, Albert Camus, George Orwell, voilà. Anna Arendt, Raymond Aron, voilà. Georges Bernanos, Germaine Tillion, Roland Barthes.
Voilà, donc c'est que des gens comme ça qui parfois, on va dire, parfois ils ont rien à voir les uns avec les autres, mais ils ont quand même en commun d'avoir essayé toujours de se tenir comme ça, effectivement, dans quelque chose d'un peu difficile, de nuancer. Et oui, il n'y a pas de plus courageux dans le sens où, quelle que soit la période que vous prenez, à chaque fois que vous prenez un exemple d'événements difficiles, d'événements décisifs du XXe siècle, par exemple, ces gens-là ont essayé d'appartenir ni à un camp ni à l'autre, de se faire attraper par aucune idéologie, comme vous disiez. Et là, on s'aperçoit souvent avec le recul que c'est eux qui avaient la position sans doute la plus juste, qu'au moment où ils prenaient cette position, ils avaient l'air de lâche, de mou, de tiède, comme je disais tout à l'heure, mais qu'en fait, souvent, ils avaient une position très, très dure, ou très, très ferme, pas dure, mais ferme. Si on prend quelqu'un comme Raymond Aron, le sociologue, il revient d'Allemagne, il est jeune maître assistant en Allemagne, il a vu émerger au début des années 30 le nazisme, il se retrouve en plein milieu de l'Allemagne hitlérienne, il essaie de discuter avec des jeunes nazis, il ne comprend pas trop ce qui se passe, il les trouve parfois très sympathiques, etc. Il a envie de continuer, de maintenir le dialogue. Il revient en France, donc il est fermement convaincu et terrorisé par le nazisme, et convaincu que le nazisme c'est l'horreur, et en même temps, il ne peut pas supporter ce qui se passe, alors que c'est un jeune mec de gauche, un jeune homme de gauche, il se réclame plus ou moins du socialisme, et il ne supporte pas ce qui se passe en URSS, le goulag, le stalinisme naissant, et donc il a envie de se tenir au milieu des deux. Il a envie d'être ni dans un camp, ni dans l'autre. Et cette position-là, qui était sans doute la plus digne, la plus belle, et la plus impossible à tenir à l'époque, elle apparaissait comme lâche, comme molle, comme foireuse, si j'ose dire, alors qu'avec le recul, on se dit, il n'y avait rien de plus fort et rien de plus beau.
Vous vous dites que c'est carrément le dogmatisme, le fanatisme qui se répandent aujourd'hui un peu partout et dans tous les camps, faut bien le dire. C'est ça que vous voyez comme de la lâcheté ou de l'impuissance ?
Oui, parce que je le ressens moi aussi à nouveau physiquement. On sent tous que c'est plus facile. Hein. C'est plus facile de se dire je me rallie à un camp ou je suis dans l'outrance ou je tape très fort. C'est plus facile.
On a l'air intransigeant.
On a l'air intransigeant et donc il y a une espèce de radical chic comme ça qui s'est répandu. Mais dont je ne m'exclus pas. Je vois bien que je suis moi-même traversé par ces penchants-là. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre. C'est aussi pour me soigner de mes propres mauvaises pulsions. Mais j'essaye de, peut-être avec l'âge, la vieillesse qui vient, en tout cas avec la maturité, j'essaye de me dire, bah non, en fait, mon vieux, c'est trop facile. C'est facile d'avoir des positions, le tranchant, le fameux tranchant, comme ça. Vous savez, des philosophes qui parlent d'un effet de cisaille. Il faut avoir un effet de cisaille sur le réel. Oui, mais parfois, quand on essaie d'avoir un effet de cisaille, en fait, on est tout mou réellement. C'est-à-dire qu'en fait, on a une position foireuse qui n'a aucune efficacité, mais qui est juste une espèce de jouissance de la radicalité.
Et surtout, on n'a pas d'humour. C'est même souvent le contraire de l'humour. Or, vous dites que l'humour, c'est la marque d'une pensée libre, indépendante et nuancée.
Oui, moi j'essaie de montrer que les auteurs que j'ai choisis, auxquels j'ai choisi de rendre hommage et qui peuvent permettre de se consoler, de reprendre des forces en ce moment, c'est tous des gens globalement qui avaient de l'humour. Je parlais de Raymond Aron, il était très marrant, il avait des vannes très très drôles contre Jean-Paul Sartre qui passait son temps à l'attaquer. Et je pense vraiment, je pense qu'on est d'accord là-dessus, que l'humour, c'est un signe de l'humour remet en mouvement les choses. Quand l'idéologie vient figer, vient vitrifier les arguments, le discours, ben l'humour forcément, dès qu'on a de l'humour, on est tout de suite dans un jeu, on remet du jeu comme on, voilà, un peu de distance à soi, de distance à ses propres failles, à son propre ridicule. Et donc, on ne peut pas être totalement en coïncidence avec soi-même, avec ses propres préjugés, quand on a de l'humour.
Jean-Bernd Baum, vous faites carrément l'éloge d'attitudes qui aujourd'hui sont même carrément combattues. Je pense le fair play, par exemple. Le fair play, aujourd'hui, il ne faut surtout pas être fair play. La modération. Très très mal vu, la modération. Le recul, là aussi, on dit mauvaise excuse, le recul, la neutralité. Alors là, on vous dit carrément que vous êtes une autruche qui s'enterre la tête dans le sable. Vous dites non, non, ce ne sont pas du tout des dérobades.
Mais non, et c'est pour ça que je cite Albert Camus, là aussi, qui dit que quand on dit un homme équilibré, tout de suite, on a quelqu'un qui est équilibré, on se dit qu'il y a une sorte de nuance de dédain dans le mot équilibré. Mais il dit, il n'y a rien de plus dur, de plus héroïque que d'être équilibré. Et la neutralité, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, l'équilibre, moi, je ne pense pas du tout que ça soit de la neutralité, si vous voulez. J'essaie de montrer qu'une position nuancée, c'est souvent une position très ferme et très, très efficace aussi. J'essaie de montrer que c'est pas du tout... Les gens qui essayent d'être dans la nuance ne sont pas de doux rêveurs dont la position serait forcément vaine ou même serait une position de compromis qui serait forcément... qui approuverait le réel, qui serait une position de démission par rapport à une prise de position politique.
Non, ça ne veut pas dire que tout vaut tout. Hein.
Ça ne veut pas dire que tout vaut tout, mais ça veut dire qu'on... On se tient bien, on essaye simplement de faire droit aux arguments de l'adversaire. Par exemple, à nouveau Camus, pardon, je le cite beaucoup, mais il est très fort là-dessus. C'est-à-dire qu'il dit toujours, il fait deux reproches aux intellectuels en général. Il dit, souvent, ils ont tendance à mettre entre l'homme et la vie un volume, un livre. Voilà, il ne faut pas mettre un livre, lui, il dit un volume du Capital. Il dit, moi, je ne mettrai jamais un volume de Karl Marx entre l'homme et la vie. Je veux être en coïncidence, je veux être dans les deux. Et ça, c'est très important. C'est très important de pas essayer de plaquer ses propres préjugés sur le réel.
Mais tous ces intellectuels, ces écrivains, Bernanos, Hannah Arendt, George Orwell, tous ceux qui ont préféré réfléchir que haïr, ils l'ont payé cher. Ils se sont retrouvés seuls en général, hein, en refusant de s'enfermer, de se laisser enfermer dans des dogmes intangibles ou des haines collectives. On se retrouve seul.
On se retrouve seul, mais moi justement, je montre à la fois que tous ces gens dont je parle et qui nous réchauffent le cœur, qui peuvent nous réchauffer le cœur aujourd'hui, j'espère qu'ils réchaufferont le cœur à plein de vos auditeurs, mais j'essaie de montrer qu'à la fois, effectivement, ils ont été dans une sorte de carrière de solitude, hein, c'est une formule de Roland Barthes. Oui, ils ont été très solitaires, ce sont des hommes sans royaume, comme dit des femmes et des hommes sans royaume, comme dit Albert Camus, donc des gens très solitaires, mais je voudrais croire, peut-être que c'est totalement naïf et un peu foireux, mais en tout cas, j'espère qu'il y a une sorte de fraternité souterraine, et j'essaie de créer entre eux des échos, entre eux et entre nous, je suis sûr et certain que ce livre est une manière pour moi de relier entre eux plein de femmes et d'hommes qui ressentent cette solitude en ce moment, et on est très nombreux, mais qui en fait ont plein de points communs et qui ont une force quelque part souterraine et partagée.
Merci Jean-Bernd Baum. Le courage de la nuance, ça vient juste de paraître aux éditions du Seuil.
Merci à vous.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine est terminé. On se retrouve demain matin dans C'est arrivé demain. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Sébastien Guyot et les grandes voix d'Europe 1. Bonjour Sébastien.
Bonjour mon
quel
cher.
Quel est le programme ?
Alors la menace de confinement en Île-de-France, le trou de souris s'est rétréci, nous dit-on du côté de Matignon. Le plan anti-bande du gouvernement pour faire face aux violences urbaines, le tout sécuritaire ne suffit pas, dit Jean Castex. Et puis si je vous dis la firme, vous pensez à
Pas forcément à ça, non.
La famille royale, bien sûr, le feuilleton qui passionne tout le monde. Harry, Meghan face à la reine d'Angleterre, ça sera le dernier débat.
Bonne émission, c'est merci.